Vous écoutez, on lit pour vous.
Les racines des tensions entre Haïti et la République dominicaine. Un texte de Jérôme Wendy Norestil, paru le 31 octobre 2023 dans le média en ligne Haïbo Post d'Haïti. Si les conflits diplomatiques persistent, l'île entière est sous la menace de défis de taille. Un récent rapport des Nations unies révèle que des groupes de gangs haïtiens font appel à des trafiquants dominicains pour se procurer armes à feu et munitions, illustrant ainsi la relation complexe entre les deux pays voisins sur fond d'histoire commune et de défis partagés. Au-delà des différences, les deux pays maintiennent une tradition de relations forgée sur l'aide mutuelle contre l'esclavage et la colonisation, ainsi que l'entraide. Ils ont également en commun des défis environnementaux, sécuritaires ou migratoires. Les relations entre les deux parties de l'île remontent avant la Révolution de 1804. Toussaint Louverture, dans une visée unificatrice, a envahi Santo Domingo au début de janvier 1801, à la tête d'une armée de 25 000 hommes afin d'annexer la partie orientale de l'île, alors sous contrôle espagnol. Le 22 janvier 1801, les troupes espagnoles se rendent puis remettent le contrôle de la capitale le 27 janvier, ce qui fait de Toussaint le chef de l'île entière. Lorsque les forces françaises désertent la colonie de Saint-Domingue, après leur défaite contre l'armée indigène, en novembre 1803, cela laisse entendre que l'indépendance est proclamée sur toute l'île. Cependant, la partie orientale était toujours occupée par les Français jusqu'en juillet 1809. La résistance française a défié les efforts de Jean-Jacques Dessalines pour récupérer l'autre moitié de l'île. Après avoir été sous le contrôle des Français, la partie orientale redevient une colonie espagnole de 1809 à 1821, avec la pleine volonté des Dominicains, voulant aussi se débarrasser des Français. En 1822, lorsque le président, Jean-Pierre Boyer, répond à l'appel des patriotes dominicains en se présentant à nouveau à Santo Domingo, il reçoit les clés de la capitale sans le moindre coup de feu. Ainsi, Haïti va occuper cette partie de l'île de 1822 à 1844. Les Haïtiens sont venus apporter la bonne parole aux Dominicains en leur apprenant à être libres de toute tutelle européenne et particulièrement en abolissant deux fois l'esclavage dans cette partie du territoire, évoque Haïbo Post, le géographe et spécialiste d'Haïti et de la République dominicaine, Jean-Marie Théoda. De 1844 à 1856, suivra une série de campagnes menées par les Haïtiens en vue de reconquérir la République dominicaine qui avait déjà proclamé son indépendance vis-à-vis d'Haïti. Les Dominicains vont considérer ces velléités comme des menaces jusqu'à la signature d'un traité de paix, d'amitié, de commerce et de navigation entre les deux pays en juillet 1867. Toutefois, lors de la guerre de la Restauration, entre 1863 et 1865, opposant les indépendantistes dominicains à l'Espagne, l'aide des Haïtiens a été indispensable, fondamentale dans ce projet de reconquête de l'indépendance, reconnaît Edwin Paraison, ancien consul d'Haïti en République dominicaine. Au cours de cette période, les insurgés dominicains ont bénéficié du support du président Fabre Nicolas Geffrard avec des troupes, des armes et des munitions. En 1871, le gouvernement du président Buenaventura Báez a sollicité l'annexion de la RD aux États-Unis d'Amérique, ce qui aurait transformé ce pays en un État de l'Union. Le projet constituait du coup, un danger pour l'indépendance haïtienne. C'est l'insistance des Haïtiens pour condamner l'attitude du dictateur qui va faire échouer le plan, précise le maître de conférence à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne, Jean-Marie Théoda. En septembre 1930, une grande empathie haïtienne s'est manifestée après le passage du violent ouragan San Zenon, laissant plus d'un millier de morts et de blessés en République dominicaine, sans compter de pertes économiques. Les Haïtiens ont été les premiers à porter secours à l'État voisin par le biais du gouvernement de Louis-Eugène Roy. Un montant spécial de 100 000 gourdes fut voté par le gouvernement en vue de financer l'aide d'urgence. Des collectes de fonds furent organisées pour recueillir l'argent nécessaire. Le gouvernement envoya également des médecins, des infirmières, des ingénieurs, ainsi que des matériaux afin de réparer le pont reliant Santo Domingo et le reste du pays. La Croix-Rouge haïtienne s'est mise en branle, ainsi que d'autres organisations, pour collecter des vêtements, des provisions alimentaires, pour ensuite les acheminer par bateau vers la République dominicaine. Cet important geste d'entraide fut vivement salué par le président Trujillo le 8 septembre 1930. Lors du violent séisme de 2010, le gouvernement dominicain d'alors est venu aider Haïti avec non seulement des médicaments, de la nourriture, mais le don du campus de limonade, inauguré en 2012. Lors de la guerre d'avril 1965, en réaction au débarquement d'envahisseurs américains en RD, un groupe composé d'une cinquantaine d'Haïtiens, qui, pour la plupart, fuyaient la dictature de Duvalier en Haïti, se sont combattus aux côtés des patriotes dominicains. Parmi eux, l'histoire retiendra les noms de Fred Baptiste, Jacques Viaud, qui dirigeait deux commandos, ainsi que Lionel Vieux. Si l'île est séparée par une frontière terrestre et une différence linguistique, cela n'empêche pas l'existence de similitudes historiques et culturelles entre les deux peuples. Dans son ouvrage « Atlas folklorico de la República Dominicana », le sociologue et folkloriste dominicain Dagoberto Tejeda Ortiz catégorise les esprits du panthéon vaudou dominicain en 21 divisions, se regroupant en Legba, Gede, Rada, Ogun, India et Petro. Une réalité qui ne diffère guère du vaudou haïtien, où elles sont connues sous l'appellation de 21 Nanchon, faisant référence aux 21 tribus d'origine des anciens esclaves africains dans la colonie de Saint-Domingue au 19e siècle. Toutefois, au cours du 20e siècle, s'est cristallisée une haine du côté dominicain vis-à-vis des Haïtiens. Kessler Bien-Aimé, sociologue, ayant travaillé sur la question du patrimoine des deux côtés de l'île, observe que les Dominicains basent leur identité sur un nationalisme colonial. Ainsi, selon le docteur Bien-Aimé, les Dominicains se sont rattachés aux colons et se démarquent avec un nationalisme interne. Ce qui est caractérisé par un anti-haïtianisme et un déni de toute appartenance à l'Afrique. Une orientation qui se base essentiellement sur une idéologie raciste, pense la cinéaste Rachel Magloire. Aussi, les Dominicains se placent à l'opposé des Haïtiens parce qu'ils les identifient à l'Afrique, poursuit la cinéaste. Vous écoutez? Les racines des tensions entre Haïti et la République dominicaine. Un texte de Jérôme Wendy Norestil, paru le 31 octobre 2023 dans le média en ligne Haïbo Post d'Haïti. Pour le prêtre jésuite Osvaldo Concepcion, Du point de vue historique, les deux pays ont choisi deux projets politiques différents. D'un côté, celui de la République d'Haïti était la construction d'un État de liberté pour les anciens esclaves. Pour la République dominicaine, il n'y avait pas ce projet d'avoir une république. Dans son ouvrage « Race and Politics in the Dominican Republic », le professeur d'études ethniques du Colorado State University, Ernesto Sagas, précise que le peuple dominicain laisse essentiellement de côté les mots « noir » et « mulâtre » de leur vocabulaire pour les remplacer par le terme « indio », moins traumatisant et socialement acceptable, justifiant aussi leur descendance hispanique et indienne. Pour comprendre la façon dont les Dominicains revendiquent leur appartenance, il faut aussi observer l'exposition de leur patrimoine à travers leur scénographie urbaine, disent des spécialistes. Alors que plusieurs pays de l'Amérique latine rejettent le personnage de Christophe Colomb, eux, ils le vénèrent. Ce personnage a, entre autres, initié deux des plus grands crimes de l'hémisphère occidental, le génocide brutal des Indiens et l'horrible commerce triangulaire. C'est ainsi qu'en 1986, sous la gouvernance de Joaquín Balaguer, les autorités dominicaines vont entamer l'édification du monument Faro a Colón, en mémoire de Christophe Colomb, à Santo Domingo. C'est un projet initié par le dictateur Rafael Trujillo. Ce chef d'État porte par ailleurs la responsabilité du massacre d'épuration ethnique de 1937. Jusqu'à 35 000 Haïtiens ont été tués par les Dominicains. Il s'agit d'un gigantesque phare couplé d'un mausolée de 210 mètres de long et de 59 mètres de large, estimé à 70 millions de dollars américains. Ce projet a été jugé obscène par des Dominicains à l'époque. Cependant, en Haïti, après la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier en 1986, la statue de Christophe Colomb, au bicentenaire, a été violemment déboulonnée. Le fonctionnement de l'économie insulaire entraîne un drainage considérable de la main-d'œuvre haïtienne vers la République voisine dès la fin du 19e siècle pour travailler dans les batailles. En 1992, le sociologue Wilfredo Lozano évalue la quantité de travailleurs haïtiens évoluant dans l'agriculture entre 60 900 à 197 900. Aujourd'hui, la canne à sucre cesse d'être le pilier de l'économie dominicaine, au profit de secteurs plus lucratifs tels que le tourisme, la construction, la culture des agrumes, du riz, du café, etc. Dans une étude menée par Instituto Nacional de Migración, INM, de la République dominicaine en 2020, sur l'estimation de la demande des travailleurs étrangers dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, les ouvriers haïtiens étaient au nombre de 88 264 dans le secteur de la construction, soit 29,21% du total des ouvriers. Avec 111 867 travailleurs, 28,15% des employés du secteur agricole et de l'élevage sont haïtiens, tandis qu'ils représentent 9,54% dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. En 2022, selon les données du Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro-Dominicana, Haïti représente le deuxième partenaire d'exportation de la République dominicaine avec 1040 millions de dollars US dans des produits manufacturés, biens intermédiaires, alimentaires, cimenterie, charcuterie, etc. Ce qui fait qu'Haïti demeure un marché vital pour l'économie dominicaine. Par ailleurs, à cause de l'insécurité, des milliers d'Haïtiens, parmi eux des artistes, ont traversé la frontière ces dernières années. Ils vivent en République voisine et y investissent leur argent. Des Dominicains travaillent aussi en Haïti dans certaines industries, comme la construction. De 2020 à 2021, les universités dominicaines reçoivent 105 021 étudiants haïtiens, selon les écrits du ministère de l'Éducation de la RD, ce qui place Haïti en tête de la liste des pays ayant le plus grand nombre d'étudiants en territoire voisin. Des femmes d'Haïti se rendent aussi en RD pour recevoir des soins médicaux. Ce sujet se trouve instrumentalisé régulièrement par la droite dominicaine. Si les conflits diplomatiques persistent, l'île entière est sous la menace de défis de taille, tels que le changement climatique, l'exploitation minière, la corruption, l'insécurité, etc. Dans le récent rapport d'un groupe d'experts de l'ONU mentionnant les actions criminelles de diverses personnalités en Haïti, il est fait mention de la République dominicaine comme faisant partie de l'itinéraire du trafic illicite d'armes à feu en provenance des États-Unis. Selon ce rapport, une grande partie du trafic passe sous les radars, ce qui révèle la dimension transnationale de la question sécuritaire sur l'île entière. Sur le plan culturel, il y a des échanges assez dynamiques entre les deux peuples. Au cours des années 1990 jusqu'au début des années 2000, Haïti participait au carnaval dominicain avec des chars allégoriques. Mais cela n'existe plus depuis quelques années, regrette Edwin Paraison. Il y a également des collaborations artistiques entre des artistes des deux côtés de l'île. Edwin Paraison est coordonnateur de la Fundación Zile, un organisme binational œuvrant dans la coopération entre les deux parties de l'île et qui a initié en 2011 la Semaine de la diaspora. Ce rendez-vous de convivialité entre les deux peuples se concentre autour d'une vingtaine d'activités dans les domaines tels que le sport, la culture, l'éducation, etc. L'association haïtienne Sol Sain opère dans le domaine culturel depuis 2015. À travers des initiatives telles que rencontres de création haïtiano-dominicaine, base binationale de données artistiques et culturelles, son directeur artistique, Daphné Ménard, entend créer une ouverture entre le secteur culturel haïtien et dominicain. L'association Caracoli, fondée en 2007, travaillant dans le milieu culturel haïtien, entreprend également des initiatives de renforcement des capacités, d'encadrement d'organisations culturelles, ainsi que le dialogue binational afin de mettre en évidence les similarités de l'île. L'idée de départ, c'est de mettre en évidence les choses qui nous rassemblent, parce que l'actualité est toujours orientée vers les divergences entre Haïti et la République dominicaine, relate Pascale Jaunet, directrice de l'association. Ce projet de dialogue veut construire des liens entre des artistes de l'île. Il veut mettre en place une base de données binationale, des échanges de presse, etc. Pour sa directrice, Pascale Jaunet, l'idée, c'est de mettre la culture au centre des relations. Malgré la détérioration des rapports entre les deux pays ces dernières années, la réalité insulaire oblige des deux côtés de faire tous les efforts possibles afin de préserver la bonne convivialité, encourage Edwin Paraison. Si la complémentarité entre les deux économies profite essentiellement à la République dominicaine, le géographe Jean-Marie Théoda soutient qu'il faut réorienter les relations entre les deux États dans un sens plus apaisé et réciproque. Smith Augustin, ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, pour sa part, pense qu'il ne s'agit pas de rompre les liens, mais de les préserver tout en défendant les intérêts d'Haïti. C'était « Les racines des tensions entre Haïti et la République dominicaine », un texte de Jérôme Wendy Norestil, paru le 31 octobre 2023 dans le média en ligne Haïbo Post d'Haïti.
L'actualité verte de la semaine, un texte d'Ariane Kroll, paru le 1er septembre 2025, dans la presse. Quiz, de quelle matière se composent les tempêtes, appelées aboub? A. Grêle, B. Sable, C. Pluie. Réponse, B. Sable. Les aboub sont des tempêtes de sable et de poussière, poussées par des vents violents. Elles se produisent dans des régions sèches et chaudes, dont le sud-ouest des États-Unis, le Sahara et la péninsule arabique. Gare aux substituts. Les substances utilisées sur des emballages alimentaires en remplacement du bisphénol A, BPA, un perturbateur endocrinien, peuvent perturber le fonctionnement des cellules ovariennes, ont découvert des chercheurs de l'Université McGill. Les quatre substituts, TGSA, D8, PF201 et BPS, mis en contact avec des cellules ovariennes humaines en laboratoire, ont perturbé certaines de leurs fonctions, montrent les résultats publiés dans Toxicological Science. Cela ne prouve pas une toxicité pour l'humain, mais indique clairement que ces produits chimiques doivent faire l'objet d'études plus approfondies, a souligné un co-auteur de l'étude, le professeur Bernard Robert, dans un communiqué de l'université. Un supplément alimentaire pour abeilles. Les changements climatiques et l'aménagement des territoires réduisent la quantité et la diversité des fleurs dont les abeilles ont besoin pour se nourrir. Pour compenser ce manque de pollen naturel, des chercheurs européens leur ont concocté un supplément en identifiant les composants essentiels à leur alimentation qui sont ensuite insérés dans une souche de levure. Les colonies nourries avec une diète ainsi enrichie ont produit davantage de larves et les ont élevées plus longtemps, montrent les premiers résultats publiés dans la revue Nature. Une vie après les canneberges. Certains producteurs de canneberges du Massachusetts récolteront moins de petits fruits rouges à l'automne car ils ont cessé de cultiver une partie de leur domaine pour le laisser au naturel. Encouragés par des subventions gouvernementales, ces agriculteurs démantèlent leurs canneberges pour restaurer les milieux humides qui s'y trouvaient à l'origine, redonnant ainsi des habitats à la faune et à la végétation indigène. L'État du Massachusetts, deuxième producteur américain de canneberges après le Wisconsin, a déjà soutenu 8 conversions de canneberges et en prévoit une douzaine d'autres. C'était l'actualité verte de la semaine, un texte d'Ariane Kroll, paru le 1er septembre 2025, dans la presse.
Le papillon tigré du Canada, un rayon de soleil dans le jardin. Un texte de Jean-François Desroches, paru à l'été 2023 dans la revue Nature sauvage à la campagne. Jean-François Desroches est biologiste et spécialiste en ichtyologie, en herpétologie et de certains groupes d'invertébrés. avec sa conjointe Myriam Tanguay, technicienne en bioécologie, il a créé la chaîne YouTube Folle Bestiole, laquelle présente des vidéos sur les petits animaux du Québec et d'ailleurs. Le passage dans le jardin d'un papillon tigré du Canada est un véritable ravissement. De grande taille, ce majestueux lépidoptère diurne de couleur jaune et noire atteint une envergure de 7,9 cm. Bonne nouvelle, il est assez abondant, vole lentement et se laisse facilement observer. Un œil averti remarquera qu'il arbore un peu de rouge et de bleu sur le pourtour des ailes postérieures, toutes deux munies d'un très visible prolongement nommé queue. Le mâle et la femelle sont identiques. Il est possible de contempler le vol des adultes du papillon tigré du Canada à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été. Cette espèce ne produit qu'une génération par année. Le nectar attractif. Ce qui attire au jardin le papillon tigré du Canada, c'est d'abord le nectar des fleurs. Dans le but de l'inviter chez soi, il faut lui offrir des plantes qu'il aime butiner et, idéalement, être situé à proximité de milieux boisés. C'est que ce papillon, s'il n'hésite pas à explorer divers habitats, est avant tout une espèce forestière. Il affectionne particulièrement le nectar des lilas, de même que des fleurs champêtres telles les épervières, les marguerites, les trèfles et les verges d'or. À la manière des autres papillons diurnes, il puise sa nourriture à l'aide de sa longue langue qui s'enroule et se déroule comme une trompe. On le voit fréquemment sur un chemin forestier, en groupe autour d'une flaque d'urine ou d'un tas d'excréments desquels il extrait le sel nécessaire à son métabolisme. Une chenille remarquable. De couleur verte, la chenille du papillon tigré porte, sur son thorax bombé, deux taches ou ocelles ressemblant à des yeux. Peu avant le stade de nymphe, elle devient brunâtre. Elle se nourrit des feuilles de diverses espèces d'arbres et d'arbustes, parmi lesquelles plusieurs sont communes dans les cours et jardins, en outre des peupliers faux-trembles et baumiers, ainsi que du bouleau blanc. Elle affectionne les différentes essences de saule, d'aune et de frêne. Les feuilles des lilas et des pommiers lui conviennent également. Découvrez-la dans votre parterre. C'était Le papillon tigré du Canada, un rayon de soleil dans le jardin, un texte de Jean-François Desroches, paru à l'été 2023 dans la revue Nature sauvage à la campagne.